chronique d'Alzheimer. Une émission réalisée en partenariat avec la Halte Répit et l'équipe Alzheimer du CIVOM de Rieux-Volvestre. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous retrouver. Nous sommes maintenant avec la troisième émission concernant la maladie d'Alzheimer et je suis avec Madame Tatiana Richet, infirmière coordinatrice de l'équipe spécialisée Alzheimer de la Halte Répit située au CIVOM de Rieux-Volvestre qui va nous faire, comme tous les mois, le partage de ses connaissances sur la maladie d'Alzheimer. Tatiana, bonjour.
Bonjour Bruno, merci pour ton invitation. Précédemment, nous avons pu voir ensemble les notions de la maladie et notamment également ce qu'est être un aidant. D'ailleurs, chers auditeurs, pour réécouter nos quelques conseils concernant l'accompagnement de la personne Alzheimer, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site internet radiogalaxy31.com. Aujourd'hui, nous allons vous informer des dispositifs favorisant le maintien à domicile des personnes Alzheimer.
Tatiana, la fois dernière, tu nous as parlé de plusieurs professionnels qui étaient disponibles pour apporter des soins à domicile pour les malades d'Alzheimer. Quels sont-ils exactement ?
Alors, il est important déjà de rappeler que toutes les pathologies neurodégénératives, donc notamment Alzheimer ou apparentées, elles sont prises en charge à 100%. C'est une affection de longue durée qu'on appelle ALD. Les soins médicaux et paramédicaux sont en majorité pris en charge par la Sécurité sociale. Pour les professionnels, notamment les professionnels médicaux, le médecin traitant ou le médecin spécialiste doit faire une prescription. Suite à cette prescription, tu peux faire intervenir les infirmiers pour les soins d'hygiène, par exemple, pour tout ce qui est soins techniques comme les pansements, ne pas oublier également la distribution des médicaments. Tu as également le service SIAD, service de soins infirmiers à domicile, qui prend en charge les toilettes, et c'est notamment des aides-soignants qui viennent sur le domicile. Également le kinésithérapeute, qui intervient dans la rééducation physique. On peut aussi faire intervenir l'orthophoniste. L'orthophoniste dans la maladie d'Alzheimer, c'est très important, puisqu'il te fait travailler l'expression, la compréhension, la mémorisation, et tout ce qui est lié à la déglutition. Les intervenants à domicile que vous pouvez également retrouver sont les psychomotriciens, les ergothérapeutes. On travaille autour des difficultés psychologiques, neurologiques, les difficultés cognitives, tout ça par l'intermédiaire du corps, par le maintien, la restauration de l'autonomie. On peut également consulter un psychologue ou un psychiatre pour être écouté, se sentir soutenu. Et puis également, sur prescription, l'équipe spécialisée Alzheimer de votre territoire, qui est une équipe pluridisciplinaire proposant l'accompagnement à domicile.
Si je décide de rester à mon domicile atteint de la maladie d'Alzheimer, souvent je dois penser à ma sécurité, j'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire du mal. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet ?
En effet Bruno, tu fais bien de parler de ce sujet. La sécurité fait partie des points à valider pour rester au domicile. Par exemple, si vous avez un problème, une chute, un malaise, une sensation d'insécurité, il faut pouvoir prévenir les pompiers ou une personne précieuse à vos yeux qui peut interpeller, qui peut intervenir. La téléassistance est gratuite en Haute-Garonne. C'est un boîtier relié à votre ligne téléphonique fixe. Vous avez un bip sous forme de bracelet ou de collier qui permet de prévenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les secours. Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 65 ans et remplir un dossier. Le service de téléassistance propose un plus grand choix d'options dont le détecteur de chute ou la montre géolocalisable en cas de déplacement en extérieur.
Oui, comme tu me parles des déplacements à l'extérieur, on en a parlé lors de l'émission précédente, dans le cas des personnes qui veulent absolument conduire. Il y a encore des risques cette fois-ci.
Tout à fait. Quand on parle de sécurité, on parle aussi de sécurité autour de la conduite. Lorsqu'on a un trouble cognitif, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir éventuellement cadrer cette conduite. Donc je vous rappelle l'existence du service des permis de conduire de la préfecture. Orientez-vous dans un premier temps vers votre médecin traitant qui sera vous amener vers des confrères spécialisés et accrédités.
Il y a la sécurité des personnes, mais il y a aussi la sécurité des biens. Il arrive fréquemment que des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ne savent plus prendre des décisions correctes ou au moins qui sont raisonnables ou logiques. Comment fait-on ?
En effet, il est possible de penser à la sécurité de la personne et de ses biens. Lorsque votre santé le permet, vous pouvez vous orienter vers votre notaire pour établir un mandat de protection future dans le cadre de votre vieillesse. Vous pourrez désigner la personne de votre choix qui vous représentera lorsque votre santé ne vous le permettra plus. Cependant, les gens n'anticipent pas le plus souvent et on se retrouve dans des situations pressantes et urgentes. Un malade Alzheimer qui ne peut plus prendre de décision en faveur de sa santé et de la préservation de ses biens doit être protégé. L'accompagnant est alors amené à faire une demande d'habilitation familiale ou de protection judiciaire d'un majeur.
Maintenant, si je veux me maintenir à domicile ou si mon proche veut se maintenir à domicile, j'ai compris qu'il faut être bien entouré, une manière adaptée avec, en fonction du stade de la maladie et en fonction de son niveau de dépendance. Comment ça se passe alors ?
Il est possible de faire appel à des auxiliaires de vie qui répondront aux besoins de la vie quotidienne. Leur rôle fait partie intégrante et est indispensable à la prise en charge à domicile. Je vais laisser la parole à Nathalie, auxiliaire de vie, afin qu'elle puisse vous parler de son métier et de son rôle auprès des bénéficiaires.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, c'est quoi votre métier ?
Je suis auxiliaire de vie auprès des personnes à domicile.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on est là pour les aider à faire tout ce qu'elles ne peuvent plus faire. Ça peut être les repas, les courses, l'aide à la toilette, au lever, au coucher. Ça peut être l'entretien du logement ou du linge, les tâches administratives, tout ce que la famille ne peut pas les aider, tout ce qu'elles ne peuvent plus faire.
Et comment les personnes décident de ce que vous pouvez faire ou pas ?
En général, avec nos responsables, il y a un plan de travail, un plan d'aide. C'est-à-dire qu'on sait que chez certaines personnes, on doit faire ça et ça, et chez d'autres, on doit faire autre chose. Tout est défini à l'avance. Et après, on s'adapte aux besoins de la personne. Mais le travail est complètement varié. On est surtout là pour les aider aussi au niveau de l'autonomie, au niveau des repas. Ça peut être donner un repas parce qu'ils ne peuvent plus. Ça peut être aider à la préparation du repas et veiller à ce qu'ils mangent correctement. Ça peut être des tâches ménagères, évidemment. Entretien du linge, etc. Ça peut être également faire des jeux de société. Ils sont beaucoup en demande d'écoute sur leur vie, sur leurs loisirs qu'ils avaient avant, sur les petits-enfants, etc. Ça peut être complètement varié.
Mais il faut quand même faire une différence. C'est-à-dire que vous êtes des auxiliaires de vie, vous n'êtes pas des employés de maison.
Ah non, tout à fait, ça n'a rien à voir. On n'est pas là que pour le ménage, parce que sinon, ce ne serait pas intéressant du tout. Ils n'ont pas besoin que de ça. Ils peuvent prendre une femme de ménage. Nous, on est complètement autre chose. C'est-à-dire que nous sommes aussi amenés à les accompagner, faire leurs courses, les guider aussi pour les commissions. On peut les amener chez le médecin, faire des papiers administratifs. C'est complètement varié.
Donc, c'est vraiment de l'accompagnement.
Oui, c'est plus de l'accompagnement qu'autre chose, oui.
Et pour faire ces accompagnements, vous êtes formé, vous avez quelque chose qui vous permet de le faire de façon professionnelle ?
Oui, nous avons différentes formations, nous le réclamons aussi, c'est-à-dire que si on veut se spécialiser, entre guillemets, mieux connaître la maladie d'Alzheimer, nous avons des formations là-dessus. On apprend également à mobiliser les gens parce qu'on ne peut pas les tenir n'importe comment, les soulever n'importe comment, pour éviter de leur faire mal et de nous faire mal. Il y a des positions très intéressantes à apprendre.
Alors, c'est quand même un métier très physique, non ?
Ah oui, c'est pas mal. Mais il y a quand même le matériel pour nous aider souvent.
Comment ça se passe ? Vous allez chez les gens, vous avez un planning pour aller chez telle et telle personne de façon régulière ? Vous avez toujours les mêmes personnes ? S'il y a une rotation, comment ça se passe ?
Alors, il peut y avoir des rotations, oui, mais sur les personnes qui ont des troubles cognitifs, le responsable essaie de nous mettre toujours chez les mêmes personnes, qu'elles ne soient pas perturbées avec des personnes complètement différentes. Et c'est mieux quand même de connaître le logement et de connaître la personne pour faire au mieux son travail.
Et vous, Nathalie, vous avez combien de personnes à gérer ?
Oh, 7 ou 8 à peu près.
Vous passez combien de temps chez chacune des personnes ?
Ça peut durer entre 30 minutes et 3 heures.
Qui décide de ce temps que vous passez chez les personnes ?
En général, c'est toujours par rapport aux heures auxquelles elles ont droit. Il faut le dispatcher, entre guillemets, sur la semaine. Et suivant leurs besoins, ça peut être 30 minutes le matin pour un petit déjeuner ou 1 heure pour un repas de midi et 3 heures pour des activités plus vastes.
Et comment les personnes vous perçoivent, celles qui ont besoin de vous, comment elles vous perçoivent ?
Alors, comme elles nous le disent souvent, on est leur rayon de soleil, parce que souvent, elles ne voient que nous dans la journée. Elles ne voient personne d'autre. Donc, si elles ne nous voient pas, elles ne parlent à personne.
Et la famille, comment elle vous perçoit ?
Mais c'est comme les bénéficiaires. Au bout d'un certain temps, pardon, il y a un lien de confiance qui se met entre nous. Et il faut aussi savoir rester à sa place. C'est-à-dire que s'il peut y avoir une dispute entre le couple ou les enfants, peu importe, on n'a pas à s'en mêler.
Vous êtes vraiment là au service de la personne malade, en fait.
Ah oui, tout à fait.
Donc, moi, si je veux faire appel à une auxiliaire de vie, ou ce qu'on peut appeler aussi des fois une aide à domicile, comment ça se passe? Il y a des services particuliers que je dois contacter?
Oui, tout à fait. Il peut y avoir soit des associations, ou des libérales, ou évidemment le SAD, Service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Nathalie, merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à vous.
Alors, Tatiana, comment j'ai accès, moi, à ces auxiliaires de vie?
Alors, il faut bien faire la différence entre avoir accès à une auxiliaire de vie et les aides financières qui y sont rattachées. Donc, soit on fait de l'autofinancement et on passe en effet par une association, comme le disait Nathalie, soit par un service SAD, soit par une auxiliaire de vie en libéral. En plus, on peut accéder à l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie. Cette aide, elle est possible en faisant une demande. Elle se fait notamment par la Maison des Solidarités, c'est-à-dire sur nos territoires, il y a une MDS, il y a une Maison des Solidarités à Muret et à Caserres. Et on fait donc un dossier APA. Lorsque le dossier est rempli et qu'on l'accompagne du certificat médical du médecin traitant, il est géré ensuite en commission, donc une infirmière évaluatrice vient sur le domicile. Suite au passage de l'infirmière, une évaluation de l'autonomie et des besoins de la personne est établie. Ainsi, vous pourrez savoir le nombre d'heures qui est octroyé aux bénéficiaires et les aides financières qui y sont associées.
Combien de temps il faut entre le passage de l'infirmière et la définition et la délibération sur ce dossier?
Je commencerai même par... Au moment où vous avez envoyé votre dossier, de manière générale, se passe un mois avant que vous ayez un rendez-vous avec l'infirmière évaluatrice. Une fois son passage, environ encore un mois avant que ça passe en commission. Et ensuite, l'aide commence au premier jour du mois qui suit. Donc si ça passe en délibération, par exemple, le 15 octobre, les aides se mettront en place à compter du 1er novembre.
Et justement, quelles sont ces aides financières? À quoi sont-elles reliées?
Alors, les aides financières sont relativement variables. Si vous avez moins de 65 ans, vous êtes relié à la maison départementale des personnes handicapées, qu'on appelle plus communément MDPH. Si vous avez plus de 65 ans, d'autres aides peuvent se mettre en place. Donc, l'APA, ce dont on parlait, hein, l'aide personnalisée d'autonomie. On a également la prestation compensatoire du handicap, la PCH. On peut retrouver les chèques emploi-service universel que vous entendez sous le nom de CESU, parfois des aides de votre complémentaire santé. Et on peut noter aussi dans les différentes aides qu'on peut avoir, notamment des aides de l'Agence nationale de l'habitat pour pouvoir mettre votre habitation adaptée aux besoins que vous avez. Par exemple, une douche italienne pour pas avoir de marche, des barres d'appui pour les toilettes. Voilà, il faut parfois se tourner vers l'ADA. Et on peut aussi également avoir la carte mobilité inclusion. C'est une carte dont on peut servir pour se garer, mais également qui donne certains droits fiscaux.
Et encore une fois, comme à chaque fois, si j'ai des questions sur la maladie d'Alzheimer, si j'ai des questions sur les aides auxquelles j'ai droit, vers qui je m'oriente?
Si vous avez des questions, vous pouvez vous orienter vers France Alzheimer au 05 61 21 33 39. Une équipe pluridisciplinaire est à votre écoute et organise également des formations pour les aidants, notamment à Toulouse, Carbonne et Haute-Rive. Si vous vous posez des questions sur la prise en charge des seniors, vous pouvez joindre Allo J'aide un proche, une écoute spécialisée pour les accompagnants, au 0806 806 830. Pour toute question sur les prises en charge, vous pouvez vous renseigner sur l'équipe spécialisée Alzheimer du Volvestre au 05 61 90 86 36. Je dirais que de manière générale, si vous vous posez des questions, vous pouvez vous rendre sur le portail du site internet Personnes âgées. Vous pouvez toujours nous réécouter en podcast sur le site internet radiogalaxie31.com.
Merci Tatiana et au mois prochain pour une nouvelle émission.
Voilà, merci Bruno pour ton écoute. Merci de nous permettre d'informer et de faire de la prévention auprès de tes auditeurs. Merci, à bientôt.
C'était beau, les oiseaux dans les arbres. C'était chaud, le soleil sur la table. Pardonnez-moi si ça vous fait sourire, mais laissez-moi vivre de mes souvenirs. C'était bon, le raisin sur la vigne, et le poisson qu'on pêchait à la ligne. Pardonnez-moi si ça vous fait sourire, mais laissez-moi vivre de mes souvenirs. Et le vent qui soufflait à la brune sur les amants qui s'aimaient sous la lune. Pardonnez-moi si ça vous fait sourire, mais laissez-moi vivre de mes souvenirs. Quand on est vieux, que l'on n'attend plus rien, on reste seul à rêver dans son coin. Pardonnez-moi si je me fais plaisir, mais laissez-moi vivre de mes souvenirs.